Bonjour. Jules Verne est toujours dans la précision astronomique, donc nous commençons pile à 17h. Bonjour tout d'abord, merci beaucoup d'être présents aussi nombreux. L'idée était de vous présenter l'aventure de Jules Verne Saga. Alors certains d'entre vous ont peut-être pu avoir l'occasion d'aller voir le stand de Jules Verne Saga, qui est situé juste en contrebas sur le même côté de la Cité des Congrès. Et dans ce stand du musée Jules Verne et de la ville de Nantes. Et vous avez 5 postes de télévision, et chaque poste de télévision vous permet de regarder nos différents épisodes dans l'ordre chronologique de l'écriture des romans de Jules Verne. Et vous avez cette possibilité assez étonnante de pouvoir ainsi découvrir tous les romans de Jules Verne, du cycle des voyages extraordinaires dans les mondes connus et inconnus, en 62 épisodes de 13 minutes, ce qui fait près de 800 minutes de film. Alors je ne sais pas si certains ont eu le courage de voir tous ces épisodes. Et l'idée était de vous présenter cette aventure un petit peu folle qui est née il y a 4 ans, du fruit de différentes contraintes. Et comme disait l'éditeur Hetzel, la contrainte est source de créativité, écrivait-il à Jules Verne, et je pense que c'est tout à fait vrai. Contrainte économique, pour dire les choses telles qu'elles étaient il y a 4 ans. J'étais dans l'écriture de ma thèse de doctorat. Quand on fait une thèse de doctorat, on est souvent économiquement sans bourse dans le fond de la cave. Et puis Paul venait d'arrêter son activité professionnelle de producteur. Je me permets de révéler donc cela. Voilà, 2 ans auparavant, il cherchait une activité, et est né ainsi ce projet un peu fou. Pourquoi ne pas raconter tout Jules Verne en 62 épisodes? Au départ, il m'a proposé en 8 minutes à chaque fois. Je lui ai dit, est-ce que tu peux me donner quelques minutes de plus? Parce que 8 minutes, c'était quand même un petit peu juste. Donc on est parti sur 13 minutes.
En fait, on est parti sur 12 minutes effectives, parce que les 13, c'est générique début, générique fin. Hein, voilà, puisque c'est transmis en épisodes, soit de façon hebdomadaire, soit tous les 15 jours selon les chaînes locales de télévision. On a pu les faire diffuser depuis octobre 2014 pour Télé-Nantes et depuis ce mois d'octobre pour Le Mans Télévision. Voilà.
Donc un projet un petit peu fou qu'on va essayer un petit peu de vous présenter avec Agnès Marsoteau, que vous connaissez certainement, qui est conservatrice de la bibliothèque municipale de Nantes, des bibliothèques de Nantes et du musée Jules Verne, directrice du musée Jules Verne de Nantes, et grâce à qui ce projet a pu trouver sa place grâce à un financement de la ville de Nantes. Donc si vous allez au musée, régulièrement, il y a certains des épisodes qui sont projetés soit dans la salle de cinéma audiovisuel, soit également dans le musée en fonction de l'actualité muséographique donc du musée. Je vais peut-être laisser la parole à Agnès parce que vous êtes la première personne que nous sommes venus solliciter pour voir est-ce que éventuellement ce projet pourrait intéresser le musée Jules Verne.
Oui, bonjour. En fait, l'intérêt de ce projet, en fait, c'est pas l'intérêt, c'est les intérêts du projet, ils étaient nombreux. Alors d'abord, il y a la passion d'Olivier pour Jules Verne, que beaucoup connaissent, que moi particulièrement je connais parce que ça fait plus de 10 ans qu'on travaille ensemble autour de Jules Verne, puisqu'il y avait eu en particulier la rencontre au moment du centenaire de la mort de Jules Verne en 2005. Donc Olivier est particulièrement qualifié pour proposer cette médiation de l'œuvre de Jules Verne. Le deuxième intérêt, c'est que au jour d'aujourd'hui, qui lit Jules Verne en entier et qui a envie de le lire en entier? Voilà. On pourrait peut-être faire un petit sondage parmi vous. Vous vous dites, Jules Verne, je connais, j'en ai entendu parler, mais je ne vais certainement pas me taper les 62 voyages extraordinaires.
Est-ce qu'il y en a dans la salle qui ont lu tous les romans de Jules Verne? Ah! Bravo. Et en plus, c'est une jeune femme.
Voilà, donc ça fait deux, parce qu'il y a Olivier aussi qui les a forcément lus, tous les 62, pour réaliser la série. Parce que même Olivier, qui connaît très bien Jules Verne, jusqu'à présent ne les avait pas lus dans leur intégralité. Et moi, qui connais un peu Jules Verne, je connais tous les romans, mais je ne les ai pas lus de la première à la dernière page. Voilà. En revanche, Jules Verne, ça, d'une part, c'est un patrimoine qu'il faut transmettre. Et ça, c'est une valeur à laquelle, en tout cas, personnellement, je crois beaucoup. Mais ce n'est pas seulement c'est pas simplement un patrimoine, Jules Verne. C'est une actualité. Voilà. Et donc, c'est important d'avoir des médiations aujourd'hui qui permettent à tout le monde de comprendre ce qu'il y a dans cette œuvre, ce qu'elle nous apporte encore aujourd'hui. Et puis, l'intérêt aussi qu'il y avait dans la démarche d'Olivier, qui a retenu tout de suite notre attention, c'est l'entrée dans les romans par le biais des personnages. Or, Jules Verne avait un talent extraordinaire pour camper ses personnages. Les voyages extraordinaires, c'est une galerie de portraits absolument fabuleuse. Et donc, c'était très intéressant de prendre cet angle-là pour créer la série. Voilà. Donc, c'est pour toutes ces raisons-là qu'on s'est lancé ensemble dans l'aventure, qui effectivement avait pas mal de contraintes, dont la contrainte économique qui n'est pas la moindre. Mais c'est vrai que Jules Verne, avec Hetzel, de toute façon, a toujours travaillé sous la contrainte. Donc la contrainte, elle est productive, et dans le cas de Jules Verne, elle est très signifiante. Voilà. Donc pour toutes ces raisons-là, il fallait mener le projet à son terme. Aujourd'hui, c'est fait, parce que si l'on montre cette année ces épisodes-là, c'est parce qu'ils ont été réalisés dans leur intégralité. Voilà.
Alors avant de passer la parole à Paul, qui est le chef d'orchestre de toute cette aventure, juste pour vous préciser que lorsque nous sommes partis sur cette idée, il y a 4 ans, qui est une idée de Paul, pour donner à César ce qui est à César, c'est Paul qui a eu cette idée. Pourquoi ne pas raconter chacun des romans de Jules Verne ? J'aime bien raconter, j'aime bien conter, effectivement, et pourquoi pas ? Sauf qu'on ne savait pas dans quoi on s'engageait, effectivement. On le savait, mais on n'imaginait pas à quel point le travail allait être assez considérable, parce que cela a nécessité de relire tout Jules Verne, ou de le lire, parce qu'il y avait quand même facilement les 2/3 des romans, je pense, que je n'avais jamais lus. Donc c'est un travail qui est tout à fait considérable, que j'ai fait d'une manière la plus honnête possible, c'est-à-dire j'ai véritablement lu à chaque fois le roman. Je me suis imprégné à chaque fois des romans, et vous avez des romans qui sont tout de même d'une taille assez imposante. Donc autant vous dire que depuis 4 ans, je ne lis quasiment que du Jules Verne. Et ensuite, il faut faire un travail de synthèse, où naturellement, dans ce travail de synthèse, où il faut en 12 minutes raconter un roman dont l'idée était de ne jamais raconter la fin, à de rares exceptions près. Mais l'idée, c'est de vous donner envie à vous-même de lire le roman, ou en tout cas, en 12 minutes, vous donner suffisamment de clés de lecture pour vous-même avoir une idée suffisamment précise du roman. Mais l'idée, c'est de vous donner tout de même envie de lire le roman, donc de ne pas dévoiler la fin. Un certain nombre de personnages disparaissent, donc c'est un choix. Autant vous dire, je vous le confie Agnès, que plus d'une fois j'ai tremblé avant que vous ne visionniez chacun des épisodes, parce qu'il y a des choix. Et je crois qu'à chaque fois, j'ai fait à peu près mouche, puisqu'il n'y a jamais eu, nous sommes toujours été sur des corrections de points de croix, on va dire, de choix de mots, une phrase, mais jamais sur un choix, on va dire, de scénario, de choix de personnages. Mais il y avait des fois, je peux vous dire, que le cœur tremblait, parce que, évidemment, plus d'une fois, on pouvait se dire, mais pourquoi tel personnage n'apparaît pas ? Pourquoi telle situation n'est pas mise en évidence ? Il est évident qu'en 12 minutes, raconter un roman qui peut faire, par exemple, 1 500 000 signes, eh bien, nécessite de faire des choix qui sont parfois, qui ne sont pas évidents.
Il faudrait préciser que tu dois les ramener à 10 000.
Et je ramène à 10 000 signes, effectivement, des romans qui parfois font 1 500 000 signes, ce qui est le cas, par exemple, du roman L'île mystérieuse. Le choix, également, a été de présenter tous ces romans, Jules Verne Saga, dans l'ordre chronologique de l'écriture, qui correspond à peu près à l'ordre éditorial jusqu'aux 10 dernières années. dans les 10 dernières années de la vie de Jules Verne, là, ça part un peu en vrille. On a des romans qui parfois sont écrits dans la fin des années 1890 et qui seront finalement des romans posthumes. Certains romans publiés très rapidement, d'autres 5 ans plus tard. Donc on est parfois dans un ordre d'écriture qui ne correspond pas à l'ordre d'éditorial à la fin. Mais nous avons fait le choix d'être dans l'ordre de l'écriture pour se calquer sur l'ordre sur la vie de Jules Verne et sur la vie politique ou scientifique ou le contexte de l'époque de Jules Verne, ce qui me paraissait extrêmement important puisque chacun des épisodes est l'occasion de faire un petit focus sur la vie de Jules Verne, sur la vie politique, sur la vie scientifique, sur l'actualité technologique, sur l'actualité géographique, etc. Et on se rend compte que l'œuvre de Jules Verne, effectivement, est véritablement une éponge de la vie de Jules Verne, de sa société, et c'est ce qui en rend toute cette œuvre particulièrement importante. Et je terminerai aussi juste pour dire que je ne fais à aucun moment un jugement de valeur. Tous les romans de Jules Verne sont présentés de la même manière. À aucun moment, je vais dire, il s'agit d'un chef-d'œuvre ou ce roman est un peu moins bon. Non. Chacun de ces romans sont tous présentés sur la même graduation. Et on se rend compte, en faisant cette présentation, que chaque roman de Jules Verne, il y a des romans moins passionnants, certes, peut-être moins bons, et encore je me méfie en disant cela, car certains romans que j'avais pu lire il y avait 20 ans, que je n'avais pas trouvé bons, que j'ai trouvé passionnants en le lisant, voilà, il y a un an ou deux. Donc c'est un jugement qui peut aussi évoluer. Mais bon, il est certes vrai que certains romans sont moins excitants, mais par contre, lorsqu'on les présente dans leur globalité, on se rend compte qu'ils sont chacun une pièce de puzzle d'un cycle, qui est le cycle des voyages extraordinaires dans les mondes connus et inconnus, et que chacun des romans de Jules Verne a sa place dans cette œuvre. Et je pense que Jules Verne Saga a son intérêt, notamment dans cette présentation globale de l'ensemble des romans de Jules Verne. Alors, il y a un chef d'orchestre, qui est Paul, sans qui tout ce travail n'aurait jamais pu être réalisé.
Je ne suis que le soutien, mais il en faut, sinon ça ne marche pas.
D'abord, c'est lui qui a eu l'idée. Et puis, c'est un travail qui s'est fait dans un contexte extrêmement particulier, que probablement il aurait été impossible, sauf avec des budgets incroyables, d'avoir sinon, puisque le travail de Paul est bénévole. Donc c'est un travail de 4 ans hallucinant. Je pense que son épouse doit me vouer aux enfers, je pense. Les vacances fichues, les voyages abandonnés, les sorties du week-end oubliées, puisque Paul vit avec cela quasiment jour et nuit, dès 5 heures du matin parfois, pour résoudre des problèmes techniques, pour faire des choix qui parfois ne sont pas évidents parce qu'on a un manque de temps. Donc voilà, on est dans une contrainte qui n'est pas évidente, on est dans une contrainte économique, on n'a pas la possibilité de pouvoir payer des gens qui vont faire de l'animation. C'est Paul qui a tout réalisé, voilà. Donc c'est un travail absolument extraordinaire pour réaliser 62 films de 13 minutes, 800 minutes pour raconter l'ensemble de Jules Verne, et ça on le doit vraiment à Paul, que je tiens à remercier ici d'une manière très solennelle mais également très sincère.
Merci cher Olivier. Je ne sais pas trop par où commencer. J'ai envie de pour reprendre un élément concernant notre collaboration avec Agnès Marceteau, il y a un moment qui est effectivement angoissant, c'est ce qu'on appelle l'acceptation, le PAD, hein, ou le BAT pour l'après-midi, hein, c'est bon à tirer. Et le plus troublant pour Olivier, c'est beaucoup plus troublant pour Olivier que pour moi, puisque en fait, c'est le transcripteur, le réducteur qui va faire que le roman convient ou ne convient pas. C'est surtout quand Agnès Marceteau nous dit « Oh, j'adore ce roman !» Alors là, on recule dans
on
nos
sièges. On tremblait tous les deux, là.
Voilà, c'est pour l'anecdote. Et comme l'a dit Olivier, c'est vraiment une excellente collaboration, un éclairage à chaque fois, et c'est un vrai bonheur de travailler ensemble. Le début de l'histoire, effectivement, est lié à une envie de refaire des choses ensemble, parce qu'on avait fait 3 films avec Olivier. On avait commencé à se rencontrer, j'étais alors producteur. On s'était rencontrés au moment, finalement, du 100e anniversaire de la mort de Jules. Et là, nous avons fait pour la télévision France 3 et pour Planète un film qui s'intitulait Jules Verne et la mer. Pour bien dire à tout le monde que Jules Verne n'est pas un scrivaillon en chambre, mais qu'il a énormément voyagé et que c'était sa pure passion que de naviguer. Olivier vous en parlera davantage. Et c'est venu après le fait qu'en tant que producteur, je recherchais un auteur qui a quelque chose à voir près de chez moi, parce que la petite production n'était pas mirifique, avec la possibilité, pour faire encore une économie d'échelle, de faire pour une fois le réalisateur et de ne pas travailler sur du documentaire avec d'autres réalisateurs, parce que c'était un peu difficile. Et je suis tombé sur un merveilleux ouvrage qui s'intitule « Les étranges lunettes de Monsieur Huette ». Monsieur Huette, Olivier, si on y revient, vous en parlera, était un opticien nantais. Et dans ce livre, je ne sais pas Olivier, je vois une très belle histoire, très bien racontée. Je dis « Oh là là, mais voilà un scénariste !» Un producteur cherche un scénariste pour raconter l'histoire, même si c'est un documentaire, il faut que ça tienne. C'est bien raconté quand même. Je lis le bouquin. Et dedans, oh merveille, qu'est-ce que je vois? Une tour carrée, haute, qui est présentée comme un observatoire. Or, cette tour carrée, très haute, est juste devant ma cuisine. Et quand je prends mon petit déjeuner, ou quand je suis dans le bureau actuellement où on produit le film, je vois cette tour. Et il s'avère que cette tour est un observatoire de la marine pour mettre à l'heure les montres de marine qui permettent de savoir où on est sur l'océan, sur la question de la longitude. Voilà. Donc, découverte, je l'appelle, je dis, j'aime beaucoup votre roman. Mais alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a en me disant que ça pouvait être un petit appât, mais il y a cet extraordinaire observatoire. Il me dit, je viens voir. Et voilà comment on s'est rencontrés. On n'a pas le film sur cet opticien et cette tour, mais Olivier préparait un certain nombre de choses au musée Jules Verne sur Jules Verne et la mer. Et c'est devenu un film à temps nommé, c'est-à-dire que Jules, quelque part, nous a synchronisés dans le temps et dans l'espace pour aller naviguer avec lui, maintenant, depuis, en fait, plus de 10 ans, d'une certaine façon. Après, on a fait des films sur son travail d'astrophotographe, parce que quand j'ai su qu'il était astrophotographe, c'était passionnant. Donc, pendant un an, on a circulé de la Bretagne, l'Écosse, l'Espagne, pour voir des éclipses totales, la Turquie, et donc, ça a fait un film qui s'appelle « Nos plus beaux rendez-vous », puisque l'astronome a rendez-vous avec les astres à des moments donnés et pas à un autre moment, sinon c'est loupé. Si la météo le veut, dans certains cas, ou ne le veut pas. Et puis on a terminé par encore un voyage lié au métier d'astronome qui s'appelle Le Soleil Noir, qui est un voyage à travers l'Europe, tu pourrais le raconter mieux que moi, qui nous emmène de Nantes, la ville de Jules Verne, vers Novosibirsk, en Sibérie, pour y observer le 1er août 2008, une éclipse totale de soleil sur la mer d'Ob, qui est un immense lac qui coupe l'Ob qui coule. Voilà. Et on a fait le voyage en train pendant 15 jours. C'était vraiment l'idée d'Olivier, à la façon de Jules Verne, en s'arrêtant en étape à Paris, à Berlin, à Potsdam. On rentre dans les détails après, si on veut, à Cracovie, puis Moscou. Chaque fois, c'était une étape sur ce que le soleil ou son observation nous apprend finalement sur l'histoire de notre univers, mais surtout d'abord sur notre système solaire. On peut commencer par là. Et donc, on recroise la relativité, le centrage du soleil dans l'univers, etc. Et puis, après tous ces parcours, on a fait tellement de choses. Puis à un moment, oui, finalement, je suis retrouvé en retraite. Et on se dit avec lui, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je connaissais sa passion pour Jules Verne. On avait travaillé ensemble dessus. Quand on avait monté la société de production Odysseus Production en 1995, je m'étais dit, je suis à Nantes, j'ai envie de faire un film, je vais dire, ça a échoué. J'étais un débutant et ça commence pas comme ça facilement. Et on a remis ça, du coup. Et on passait, en fait, devant la médiathèque, alors que quelques mois auparavant, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire? D'un coup, idée lumineuse, comme je savais, Olivier a fait des programmes courts pour Nantes 7. Moi, je cherche des programmes courts également dans sa circonstance par rapport aux télés locales. Et puis, je lui dis, mais on a tout là. On a tout. On a une excellente collaboration avec le Musée Jeanne et la médiathèque. On a tous les bouquins de Jules Verne qui sont là avec de magnifiques illustrateurs. On fait Il y aurait plus qu'à, connaissant le talent de compteur d'Olivier, et c'est comme ça que ça s'est passé, je l'ai appelé, et c'est parti de cette façon-là. Là-dessus, je vais dire aussi quand même une chose, c'est que, certes, je fais le travail de couture qui fait que tout ça va bien, mais on a un merveilleux scénariste, Jules Verne, un merveilleux directeur du casting, Jules Verne, un excellent dialoguiste, Jules Verne. Donc vous comprendrez après cette admiration pourquoi les films les romans de Jules Verne ont immédiatement été repris au spectacle, mais également au cinéma. Tout est là. Et la particularité du travail d'Olivier, c'est à travers cette synthèse que contraint la brièveté, c'est finalement de très 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 bien dessiner la trame scénaristique. La dramaturgie est parfaitement dessinée, très vite, ce qui fait qu'on s'y intéresse. Je fais une petite digression. L'autre élément de la brièveté, c'est aussi donc la concision, c'est de faire ressortir les éléments les plus percutants, finalement. C'est-à-dire que peut-être que dans 20 milieux sous les mers, la description de tous ces poissons, vous avez la chance d'y échapper. Donc, cette contrainte, effectivement, elle est très, très créatrice, très intelligente. Elle oblige à l'intelligence, si vous voulez, naturellement. Et ça, c'est vraiment le travail d'Olivier qui est fait magnifiquement et que moi, j'admire pour un autre domaine. Donc voilà, on a commencé notre fabrication. La première diffusion a eu lieu, et on n'avait pas fini tous les épisodes, bien sûr, parce qu'on l'avait fait sur Télé-Nantes en octobre 2014. Et on est en octobre 2016, ce sont les derniers épisodes qui sont en train d'être diffusés. Et nous, on avait commencé en octobre 2012, nos travaux même avant. Enfin, je prends ça, on avait commencé avant, en fait. Hein. Voilà. Ce travail de préparation, parce qu'avant de commencer à travailler, il faut évidemment réfléchir des formats, des machins. Voilà. C'est une très. En mettre au point la méthode. Hein, voilà.
Oui, juste pour rebondir sur le fait, c'est un travail que l'on a fait avec beaucoup de plaisir.
Attends, je rajoute une chose, on a également un excellent décorateur. C'est-à-dire, tous les décors, tout est là. Hein, on ne se sert que des illustrations de Jules. C'est ça que je trouvais formidable. Moi, je viens des arts plastiques. Donc, j'avais rien à faire qu'à regarder dedans, à choisir. Tout était là. Il n'y avait plus qu'à à piller les fameux graveurs extraordinaires, façon de parler, et les mettre en valeur. Et en même temps, ça permettait de rentrer dans chacune des images comme jamais vous ne pouvez les voir dans les authentiques parce qu'on les agrandit, on rentre dans le détail. Et c'est stimulant. Olivier, quand il voyait le résultat, il dit « Ah, mais j'avais pas vu ça !» Ben, oui, parce que moi, je m'en sers, je vais chercher dedans ce qui illustre. Et tout y est. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où je dis « Mince, j'ai pas d'image. » Non. Donc, mon petit travail, j'oserais le comparer avec à la fois une forme de fausse modestie aux imagiers du Moyen-Âge. Je n'ai pas fait autre chose. Hein, voilà. Il suffit de suivre ce qu'ils nous ont proposé et c'était extraordinaire. En fait, c'est le travail du metteur en scène. Un réalisateur, pour moi, c'est un metteur en scène. Hein, il a ses décorateurs, etc. Il a un livret, il fait de l'opéra, de la musique, et il valorise tout ce patrimoine, ce bien, pour qu'il soit lisible, plaisant, attirant, réjouissant. Et puis, vêtements qui forcent à réfléchir et à penser aussi.
Donc, effectivement, un des intérêts des épisodes, c'est de pouvoir mettre l'accent sur les gravures. Donc, il y a un certain nombre de fois où il y a des détails dans les gravures auxquels je n'avais jamais fait attention et qui, tout d'un coup, apparaissent dans toute leur beauté. Donc, c'est une nouvelle vision, effectivement, sur le travail d'illustration des romans de Jules Verne. Ce que je voudrais juste dire aussi, c'est qu'il y a un vrai plaisir que j'ai eu personnellement à faire ce travail parce que Jules Verne, moi, m'accompagne depuis l'âge de 12 ans. Donc, j'ai découvert l'astronomie et Jules Verne à quelques mois près, en 1978-1979. 1978, c'est une année de commémoration très importante puisque c'était le 150e anniversaire de la naissance de Jules Verne. J'étais un petit Nantais, il y avait eu une très belle exposition au Palais de la Bourse, là aujourd'hui où il y a la FNAC aujourd'hui, où il y avait un planétarium qui avait été installé. Le planétarium de Nantes n'existait pas encore. Et c'est tout cet univers que j'ai découvert d'un coup, cet univers de Jules Verne, ses gravures, cette idée du voyage scientifique, une façon de contempler le monde, de voyager. Et puis cet univers de l'astronomie parallèlement que j'ai découvert. Donc je suis devenu astronome amateur. J'ai consacré ma vie bien depuis 30 ans professionnellement au monde de l'astronomie, à l'astrophotographie, à l'histoire des sciences avec l'histoire de l'astronomie et à la médiation en culture astronomique. Et Jules Verne m'a totalement nourri, puisque la lecture des romans de Jules Verne, il n'y a pas que les romans de Jules Verne, je vous rassure, hein. Il y a Giono, il y a d'autres auteurs qui ont joué un rôle très important pour moi. Mais c'est vrai que Jules Verne m'a accompagné dans mes voyages et a parfois même été une source d'inspiration pour réaliser un certain nombre de voyages ou d'aventures, ou d'une certaine façon de voyager également. Et c'est quelque chose qui est un lien assez fort que vous pouvez constater lorsque vous interviewez des gens qui ont fait le tour du monde, qui sont allés sur la Lune, qui vont dans l'espace, qui sont allés dans les profondeurs des mondes sous-marins, qui ont fait le voyage en ballon, dans les airs. Eh bien, lorsque vous les interviewez, il y a très très souvent un point commun entre chacun de ces personnages. Ils ont lu Jules Verne. Et Jules Verne a été une source de rêve, une source d'inspiration. Et c'est assez fantastique de constater qu'aujourd'hui encore, plus d'un siècle après la mort de cet homme qui est un homme du 19e, eh bien ces romans, cet univers, c'est pas automatiquement les romans d'ailleurs, ça peut être l'atmosphère de Jules Verne, ça peut être les adaptations parfois très très libres de l'œuvre de Jules Verne, mais qui malgré tout ont participé à la connaissance d'un Jules Verne. On a chacun notre Jules Verne, et tout cela a participé à un imaginaire et à une envie de se dépasser, de voyager, à une certaine idée de la science également. Et il est assez frappant de constater qu'un festival comme Utopial, qui est un festival de science-fiction ô combien important en France et en Europe, eh bien, présente toujours Jules Verne en son sein, puisque si Jules Verne n'est pas un auteur de science-fiction, mais un auteur d'anticipation, la plupart, si ce n'est tous les grands auteurs de science-fiction, ou moins grands, eh bien, se réfèrent généralement à Jules Verne, qu'ils considèrent comme un père ou un grand-père. Et les quelques présentations que j'ai pu faire dans les écoles de Jules Verne Saga se sont révélées être des outils de médiation assez formidables, parce que j'ai eu le grand plaisir de constater après coup que de présenter par exemple le Tour du Monde en 80 jours avec notre petit épisode de 13 minutes, ou L'île mystérieuse que j'ai eu l'occasion de présenter voilà, dans différentes écoles, eh bien, ont donné envie à des enfants, eux aussi, du coup, après coup, de lire Jules Verne. Et ils m'en ont parlé après coup. Et ils ont eu envie, du coup, aussi de lire d'autres romans de Jules Verne. Et ça peut donner, nourrir des envies, des idées, des rêves. Et c'est une des plus beaux compliments que l'on puisse faire à notre travail.
C'est notre souhait, en faisant ça, c'est pour divertir, attirer l'attention dans ces domaines culturels. Évidemment, c'est un travail de médiation. L'idée, c'est de donner envie sur les choses qui apportent de la connaissance, du rêve, de la réflexion, une meilleure compréhension. Et les personnages Jules Verne, c'est les épisodes. Je ne vais pas me lancer là-dessus, parce que moi, la chose que j'ai découverte à travers le travail d'Olivier, c'est effectivement l'anticipation sur la dimension géopolitique. C'est absolument subjugant. Et qu'on ne peut pas forcément décrypter si on ne fait que lire certains romans, et certains romans qu'on ne lit plus aussi, plus tardivement dans sa vie. Sa réelle inquiétude sur la notion de progrès, qu'il ne réfute pas, et pour lesquels il imagine, quand on découvre, les meilleurs accomplissements possibles, mais à chaque fois, sur lequel il nous met en garde sur les dangers de cet excès de développement pour ceux qui ont ces outils-là en main. Or, quand je vois ça, et plus ça va dans son œuvre, plus c'est flagrant, mais c'est déjà flagrant dès le premier roman,
Cinq semaines en ballon.
Vous lisez Cinq semaines en ballon, puisque le ballon... Excusez-moi, ce qui est merveilleux avec Olivier, c'est que je suis capable maintenant de parler de Jules Verne, que je ne connaissais pas. J'avais été passionné par Le Château des Carpates, par 20 milieux sous les mers, par Robur le Conquérant, et puis ça s'arrêtait là. Voilà. J'avais été mis au courant par un cousin qui avait 50 plus que moi, qui m'avait fait lire roman. Bon, mais c'était tout. Et là, vous découvrez que Jules Verne, dès le départ, avec 5 semaines en ballon, nous met en défiance de la merveille de la science, mais de sa séduction fallacieuse dans certaines circonstances et trop de circonstances. La même chose pour le problème de la pléonexie, qui veut dire l'appropriation excessive des biens, l'appétit sans fin des biens ou de la fortune. Finalement, pour moi, Jules Verne est un vrai philosophe sans jamais le paraître. Et c'est là aussi présent Les machines servent à la connaissance, servent à une meilleure évolution, mais ceux qui les possèdent ont malheureusement la fâcheuse tentation de se les approprier et de ne pas en céder la concession à aucun prix à ceux qui pourraient en profiter. Voilà, on peut le dire comme ça. Et chacun de ces romans nous rappelle aussi à des épisodes de l'histoire. À chaque fois, il est dans l'histoire, dans la société. Si effectivement le voyage lunaire qui contient ces deux romans se passe aux États-Unis, c'est pas pour rien. Il avait déjà pressenti tout ce que cet merveilleux enthousiasme américain, parce qu'il est fasciné par l'enthousiasme américain, vraiment. Mais en même temps, il en voit le danger. On retrouve cette même équipe du Gun Club qui conquiert la Lune. Mais attention, le grain de fantaisie qui fait que tout d'un coup, ce qui était qu'un objectif de gloriole de la part d'artilleurs américains de prouver qu'ils étaient les plus forts au monde, c'est-à-dire envoyer un boulet sur la Lune avec leur canon, parce qu'ils se retrouvaient sans travail, parce que la guerre de sécession avait cessé. Incidemment, je vous rappelle que le premier film de Méliès concerne ce fameux voyage. Et qu'est-ce qu'il reçoit dans son œil ? C'est un obus. Donc quand même une sacrée violence de la part d'une merveilleuse, d'un merveilleux travail technique. Et dans ce roman, ces gens du Gun Club, plus tard, on les retrouve avec leurs histoires de canons, dans un roman qui s'appelle Sans Dessus Dessous, qui est peu connu, qu'Olivier a pu faire, a dirigé la collection de réédition avec Actes Sud, avec de merveilleuses illustrations. Le projet calamiteux dont je vais vous parler, vous allez le voir tout de suite, c'est que les Américains se sont dit « Oh, mais le charbon, qui était le pétrole de l'époque, il y en a plein sous le pôle Nord peut-être. Comment on peut y arriver alors qu'on a une banquise énorme ?» Eh ben, les gens qui ont des canons savent ce que c'est que les forces, c'est de la physique, qui vont dans un sens, ils vont dans l'autre. On peut envoyer un objet, mais avec un immense canon bien calculé, peut-être que si on faisait bouger l'axe de la Terre un peu plus orienté avec ses pôles vers le Soleil, ça fondrait, et là, adou le pétrole, je veux dire le charbon. D'accord ? Je ne vous décris pas la fin, je la réserve à vos lectures. Et ça se passe, ce roman, quand est-ce qu'il l'écrit ?
1886 ou 87, si
voilà.
Je ne dis pas de bêtises.
Hein, le soleil, pour nous, n'a pas changé de place, on est fort heureux, mais on pourrait dire que rien n'a changé sous le soleil. Voilà, c'est une façon de montrer mon admiration pour ces récits. Voilà.
Vous dire que vous pouvez retrouver donc l'ensemble des épisodes présentés là dans les petits livrets. Dire aussi que on espère que l'aventure continue, parce que il faut qu'on trouve aujourd'hui la bonne formule pour que ces épisodes soient facilement accessibles et diffusés, puisque pour le moment, à part la diffusion sur les télévisions, la possibilité de les voir sur le site et puis le musée Jules Verne, il n'y a pas de solution qui a été trouvée pour un support, mais qu'on va y travailler et qu'on espère de trouver une bonne solution. Parce qu'effectivement, je pense que c'est la bonne façon aujourd'hui d'avoir accès à la totalité de l'œuvre. Et comme Paul l'a rappelé, pouvoir appréhender la totalité de l'œuvre, c'est important. Plutôt que de résumer Jules Verne à deux ou trois romans dont on croit qu'ils sont emblématiques, alors qu'ils ne font pas du tout le tour de la problématique. Voilà, je pense que c'est important de le rappeler, parce que c'est souvent à travers les romans moins connus que l'actualité de Jules Verne, elle apparaît encore de la manière la plus claire et la plus convaincante. Sans dessus dessous étant, de ce point de vue, effectivement un excellent exemple. Là, je voulais ajouter ça. Et puis peut-être que vous souhaitez nous dire quelque chose sur Jules Verne ou sur les films que vous auriez vus en bas.
Bonsoir. Bon, je viens de l'autre ville de Jules Verne, si vous voyez ce... Voilà. Je voudrais juste vous poser une question. Quand vous avez fait vos résumés concernant les livres de Jules Verne qui ont été, on va dire, pour être poli, modifiés par son fils, vous êtes référé aux originaux ou aux modifications ?
Oui. Vous là, vous touchez un des domaines qui pouvait être effectivement compliqué. Donc, pour présenter, il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle les romans posthumes de Jules Verne, donc des romans qui ont été publiés après la mort de Jules Verne. On savait que Jules Verne avait une avance sur le calendrier éditorial et qu'il y a donc quelques romans qui ont été publiés après sa mort. Certains avaient été suffisamment corrigés pour qu'il n'y ait pas de problème par Jules Verne avant l'édition, mais la plupart ont été plus ou moins fortement transformés par son fils Michel, mais cela sera véritablement compris et découvert dans les années 80 à peu près, c'est cela, hein, progressivement, on va dire, surtout dans les années 1980.
En fait, lorsque certains posthumes ont été publiés, déjà à l'époque, il y a des lecteurs qui connaissaient bien leur Jules Verne et qui se sont méfiés. Et il y a même eu quelques histoires un peu retentissantes à la limite du procès.
Ouais.
Donc Michel, le fils de Jules, et Louis-Jules Hetzel, le fils de Pierre-Jules, qui ont eu quelques craintes et ont réussi à étouffer l'affaire. Mais c'est progressivement ensuite que la vérité est apparue, d'autant plus que pour ces romans-là, en général, on a plusieurs versions. Et on a des tapuscrits qui sont en fait les versions sur lesquelles Michel a travaillé. Voilà, donc progressivement, la lumière a été faite sur cet aspect-là.
Alors c'est bien entendu un aspect que je présente dans les épisodes concernés. La difficulté, c'est que, étant donné que nous sommes en vidéo, nous avons la nécessité d'avoir besoin d'images. Alors je pense notamment au secret de William Storitz, où Michel transforme totalement le roman au point de le changer d'époque, puisque dans Jules Verne, nous avons la question des problèmes de rayon X, nous sommes vraiment dans la temporalité de son époque, de la fin des années 1890, et Michel transforme le roman en le projetant en plein cœur, seconde partie du 18e siècle environ. Donc nous sommes face à des personnages du 18e. Donc là, j'étais face à un problème d'autant plus sévère. D'une manière générale, généralement, j'ai fait en sorte de me caler plutôt sur le manuscrit original de Jules Verne. L'exemple de William Storitz étant à part, puisque là, les images faisaient que j'étais obligé plutôt de me caler sur la version de Michel. Mais à la fin, je montre les différences, et notamment la question des rayons X en particulier, pour montrer ces différences qui étaient apportées par Michel. Mais en général, par une pirouette, on va dire, de scénario, je suis plutôt sur le roman de Jules Verne, mais illustré avec les illustrations de la version de Michel.
Voilà, alors, et on peut vous raconter une anecdote à ce propos, puisque ces messieurs vous ont dit que j'ai passé mon temps à censurer ce qui avait été fait et que jouer.
Il y a eu peu de censure.
Et que j'ai joué le rôle d'Hetzel, voilà, ce qui était un rôle d'ailleurs très, très estimable, parce que j'ai beaucoup personnellement d'estime pour Hetzel, donc ça ne me dérange pas. Mais par exemple, il y a un roman qui a été publié sous le titre Le pilote du Danube et qui est un roman qui a été relativement remanié. Le roman original écrit par Jules Verne, c'était Le beau Danube jaune. Le beau Danube jaune étant d'ailleurs une forme ironique du beau Danube bleu. Voilà. Et il se trouve que Jules Verne avait décidé d'appeler son personnage principal Ilia Krouch. Et certains disent d'ailleurs que si Jules Verne l'a appelé Ilia Krouch, c'était pour mieux le prononcer Ilia Krouch. Michel et l'éditeur ont dû trouver que ce n'était pas suffisamment sérieux. Et donc, ils ont changé le nom du personnage et c'est devenu Ilia Brouch. Voilà. Et donc, comme Olivier, effectivement, s'est calé sur la version de Jules, il raconte l'histoire d'Ilia Krouch. Et moi, quand j'ai regardé l'épisode, comme en arrière-plan, il y a des pages du livre, etc., j'ai dit à Paul, mais les gens, ils vont rien comprendre parce que le personnage, il s'appelle Bruch. Voilà. Donc, voilà un exemple des questions qui se sont posées et puis des solutions qu'il a fallu trouver.
Donc il a suffi d'une pirouette à la fin, dans le cadre des transformations de Michel, d'expliquer qu'il est même allé jusqu'à transformer le nom du héros, ce qui permettait de résoudre le problème de l'épisode. Mais vous avez posé une question qui était tout à fait pertinente, effectivement, qui montrait parfois la difficulté à faire une synthèse.
Alors, Juste une petite question. Je suis, j'ai lu un peu, on m'a raconté du Jules Verne quand j'étais petit, j'ai une petite pareil dans la culture générale de Jules, mais j'ai vu mes éditions quand j'étais petit étaient sur des éditions non complètes, j'ai remarqué, et je me demandais quelles étaient les éditions que vous conseilleriez si on voulait se remettre dans l'œuvre.
Les éditions? Non, les éditions.
Les éditions.
Alors, écoutez, il y a plusieurs choses. Hein. Ça dépend l'âge qu'on a. En particulier, moi, je pense que pour les enfants, sauf les enfants grands lecteurs, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Il ne faut pas hésiter à proposer des éditions abrégées. Et les éditions abrégées d'aujourd'hui sont des éditions sérieuses. La difficulté de Jules Verne, c'est qu'il n'a pas toujours été abrégé de manière sérieuse. Et en particulier, il y a eu une grande spécialité des éditions Hachette entre les deux guerres qui n'abrégeait pas, qui coupait. Voilà. Les romans trop longs ont coupé. Alors évidemment, ça perdait du sens et ça perdait de la qualité. Mais aujourd'hui, les éditions abrégées sont des éditions sérieuses. Et ça évite, par exemple, comme le disait Paul, de trouver que dans 20 milieux sous les mers, des pages et des pages de poissons, ça va bien. Mais il y a des gens qui lisent Jules Verne pour les pages de poissons. Voilà, et il y a des gens qui lisent Jules Verne pour la langue. Donc il faut que chacun prenne les choses comme elles viennent, de même que moi je pense qu'il n'est absolument pas, honteux d'appréhender Jules Verne par les adaptations cinématographiques. Voilà, et on a en particulier au musée l'habitude de diffuser pour les plus jeunes des films d'animation qui ont été faits par France 3 autour des années 2000 et qui sont d'excellentes adaptations. Et un enfant qui n'a pas envie de lire Jules Verne, il a le droit. Comme je suis bibliothécaire, je peux dire qu'on a le droit de ne pas avoir envie de lire Jules Verne. Il aura un excellent contact avec l'œuvre. C'est pour ça qu'on attache autant d'importance à varier les médiations.
Et je ne sais pas si la question était liée à la jeunesse, parce que là, nous, on n'a pas les enceintes.
Non, voilà. C'est vraiment la question. Pour un adulte comme moi qui voudrait se repencher dans Jules Verne.
Alors, le livre de poche est une très bonne édition, puisque on n'y a pas tout Jules Verne, mais il y en a quand même beaucoup. Et il doit y avoir au moins les deux tiers, peut-être.
La dernière fois qu'on a publié intégralement Jules Verne, c'était dans les années 70. Au moment du 150e anniversaire de sa naissance, il y a eu plusieurs éditions intégrales et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour des raisons économiques, ça ne se fait pas. Mais le livre de poche a repris dans une jolie collection rouge qui en plus est une édition illustrée d'un assez grand nombre de romans.
Et ce sont en fait des mini Hetzel d'une certaine manière, puisque ce sont les gravures et l'édition en miniature, on va dire, en livre de poche, édition Hetzel.
Et à des prix très, très abordables.
Merci.
Bonjour et merci pour le travail que vous avez fait. Je voulais vous poser une question par rapport à tout ce qui a déjà été fait en termes de filmographie ou de réinterprétation de Jules Verne. Est-ce que vous l'avez pris en compte pour faire vos choix scénaristiques de qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on garde pas? Est-ce qu'au contraire vous avez dit non?
Alors si j'ai bien compris la question, est-ce que les adaptations cinématographiques ont pu nous influencer, c'est ça?
Pas que cinématographique, tout ce qui a déjà été fait en fait.
Ah, très bonne question. Est-ce que tout ce qui a été fait a pu je pense que la réponse est non. Alors, je suis influencé, bien évidemment, par des lectures ou des conférences ou un certain nombre de Verniens. Jules Verne fait partie de ces auteurs particulièrement étudiés. Alors, je ne fais pas partie de Société Jules Verne ou de groupements de recherche autour de Jules Verne, mais je gravite néanmoins dans cet univers-là et je suis attentif à ce qui peut être découvert autour de l'étude de cet univers vernien. Donc ça peut m'inspirer, bien évidemment, parfois d'une manière inconsciente par les lectures que j'ai pu avoir autour de l'œuvre de Jules Verne depuis une bonne vingtaine d'années. Mais je pense pouvoir dire néanmoins honnêtement que c'est tout simplement ma redécouverte à un moment donné du roman. Je me replonge dans le roman et au moment où je commence à lire le roman, soit c'est une découverte et parfois je ne m'attends pas du tout à comment le roman va se terminer parce que je ne l'ai pas du tout étudié. Je n'ai même pas lu son résumé parce qu'il y a quand même des romans qui sont quand même peu connus au jour d'aujourd'hui. Ou parfois, je connaissais très bien un roman, mais je ne savais pas du tout par quoi j'allais le prendre. Et c'est vraiment ma confrontation avec une œuvre qui fait que petit à petit, avec la lecture du roman, eh bien, il y a des choix qui s'imposent à un moment donné.
Je vais ajouter quelque chose pour confirmer le fait que moi aussi, je dis non. Parce que en aucun cas, jamais Olivier ne m'a parlé quand on abordait ce qu'on appelle le pré-tournage. Vous parlez peut-être un tout petit peu de façon de travailler. Il n'a jamais fait référence à un film, un feuilleton de télévision, une adaptation quelconque. C'est-à-dire qu'à chaque fois, quand Olivier... Alors, on travaille comme ça. En fait, je suis son premier spectateur. Je n'ai jamais lu ce qu'il a écrit. La déontologie, pour moi, c'est d'être le premier auditeur de ce que le conteur va dire. Et dans notre relation de travail avec Olivier, on a vraiment ça. Lui, pour pouvoir vraiment s'exprimer comme un conteur, a besoin d'un spectateur. Et je suis ce spectateur lambda derrière la caméra, quasiment invisible, parce que je ne raconte pas.
De Funès, c'était pareil. Hein. De Funès, il avait besoin d'un public. Et quand je vois Paul qui ne sourit pas ou qui n'éclate pas de rire derrière sa caméra sans faire de bruit, à un moment clé où on devrait rire, je me dis, là, il y a un truc qui a raté. Là. C'est arrivé quelquefois, hein, effectivement.
Donc, voilà comment ça se passe. Et en fait, on fait un pré-tournage. D'accord ? Et j'entends pour la première fois le texte. Quand il y a des choses qui me gênent, je n'interromps pas tout de suite Olivier. On va jusqu'au bout de la prise, de la séquence qu'il est prévu de dire. Et après, je lui dis, ah, peut-être que... Voilà. Alors, c'est à ce sujet-là que ça bouge, mais c'est dans le pouillème ou un petit mot qui serait plus... Voilà. Mais c'est verbal dans notre échange. Là, on le corrige sur le prompteur. Hein, tout de suite, on enregistre, ça nous plaît. Et après, à partir de là, quand j'ai mon pré-tournage, c'est ma partition. C'est une vraie partition. Et là, quand je fais mon travail de montage. Et Olivier, alors il y a un moment qui est très émouvant avec Olivier, c'est quand il arrive le matin, on va prendre le petit déjeuner dans la cuisine qui donne toujours sur la même tour, observatoire de la marine. Et il arrive, oh là là, ça, je ne sais pas quand même si ça va y arriver. Et forcément, c'est comme un auteur, et en même temps qu'un acteur, mais surtout un auteur, qui pour la première fois va dire son texte, et je lui fous le trac, alors que moi... J'attends tranquillement comme spectateur qu'il me le raconte. Je lui dis, mais t'inquiète pas, ça va aller. Alors, quelquefois, sur la fin, t'as des doutes. Je lui dis, mais c'est pas grave, on y va, tu vas voir. Et c'est vrai que comme Olivier a une nature vraiment de conteur, il y a des choses assez définitives qui arrivent quand il est devant les... Voilà, devant son spectateur qui est là, et enfin, qui a envie de rire, qui... Voilà, je suis quelqu'un d'assez réactif tout de suite. Je suis assez enthousiaste sur les choses, et Olivier le lit. Si je suis un peu comme ça, bon, voilà. Il peut savoir comment je ressens. Et en fait, c'est là que le dosage se fait, parce que c'est un homme de spectacle, Olivier, de scène, présenter une histoire, etc. C'est vraiment son truc, c'est sa nature. Et moi, je suis le metteur en scène qui, quelque part, avec beaucoup de petites applications, il n'y a pas d'imposition de ma part, c'est plutôt ma réaction.
Voilà. Alors, une des grosses difficultés, là, comme on parle technique, c'était de respecter pile le temps de parole. C'est le gros problème, c'est la contrainte de la télévision. Et donc, c'est arrivé souvent plus au départ, où j'avais 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes de trop. Alors, vous imaginez.
Olivier est un conteur, il exagère,
mais,
c'est normal.
Mais c'est arrivé quelquefois au départ, hein, je dis bien au départ, où il y avait plusieurs minutes. Alors, je ne voyais vraiment pas comment. Et puis, on arrive finalement très, très bien. Là, sur les derniers tournages, très curieusement, je suis souvent en dessous.
Il en manque.
Alors là, ça c'est très pénible, où Paul m'envoie un petit mail et me dit, bah, il manque 30 secondes, il manque une minute. Alors là, c'est
une
très pénible
40,
quand vous devez vous plonger dans un roman, où vous dites, bah, tiens, voilà, je l'ai bien présenté, puis finalement, il manque une minute qu'il faut retrouver. Voilà. Mais bon, voilà, on arrive, c'est la contrainte. Voilà, il faut à chaque fois que j'ai 12 minutes voilà, de texte.
Alors, pour rien vous cacher sur le texte trop long, ben, je me sers de la paire de ciseaux et je propose un remaniement du texte à Olivier. Il le valide ou il ne l'est pas, on remplace quelque chose. Parce que quand vous avez votre partition, vous pouvez raccourcir certaines petites choses, hein, ou des mots. Et comme on est sur le pré-tournage, on reprend des trucs qui sont un peu ailleurs et je le soumets à Olivier. Et à partir de là, on a la définitive et on tourne.
D'autres questions ? Oui, une question.
Après votre Jules Verne saga, est-ce que vous avez des Dumas saga ou d'autres auteurs emblématiques français en vue?
Alors, on se repose déjà. Je crois que Paul va partir en vacances. Enfin, je pense que
non. Mais...
Et alors, votre question est tout à fait pertinente parce que elle nous a été soumise. Je crois même qu'on, dans un moment de folie. On a dû évoquer pourquoi pas Balzac, pourquoi pas Dumas, pourquoi pas, voilà. Bon, je ne pense pas parce que je n'aurais absolument pas du tout le
même appétit.
Enfin, pourquoi je travaillerais sur Balzac? J'adore Balzac, mais voilà. Mais effectivement, la question pourrait se poser pour d'autres personnes, peut-être, pourquoi pas, que ça puisse donner une idée, effectivement, de séries télévisées, pourquoi pas, sur d'autres auteurs. Je pense à Balzac, parce que ça s'y prêterait, je pense, très très bien, effectivement.
Y a-t-il d'autres questions? Non.
Bon, bah écoutez,
Bon voyage, Jules Verneau, utopialien.
Et bonne lecture de Jules Verne.
Voilà.